Nous sommes lundi 1er avril et vous écoutez le 42e épisode, face B de Proxy Jeux.
Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous présente les jeux de société sur table et sur écran.
Et Proxy Jeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone et Android. Et merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludicbazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas. Salut les joueurs, salut les joueuses, salut Olivier.
Salut Jérémy.
Ça va ?
Très bien.
En forme après cette phase A ?
Très 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 bien. Je reparle d'ascension ou pas ?
Pas tout de suite, on a dit pour le 43.
Ah oui, pour le 43.
Un peu de retenue.
C'était notre fil rouge pour la phase A, c'est le bon jeu.
On va essayer que ce soit pas le fil rouge de la phase B.
Et on va pas en parler. Ça y est, c'est fait, mais on ne va plus en parler. Alors de quoi on va parler ? Forbidden Desert, Augustus, Frontières, Keyflower.
Tout ça sur table.
C'est tout ça sur table. On commence par le désert interdit.
Et ouais, et les Battle Foam et tout ça, on en parle à un autre moment.
On en parlera après. Ça nous fera une petite pause avant de parler des écrans. C'est ce que je te propose.
Avant que tu t'endormes. D'accord.
Avant que je m'endorme. Je m'endors jamais. Je parle tout le temps. Je peux pas m'endormir. C'est ça qui est bien. On y va ?
Allez, c'est parti pour Forbidden Desert.
Et donc, l'île interdite.
Donc, non, le désert interdit. Donc, c'est. Il faut savoir qu'on va jouer sur une version.
Proto.
C'est pas proto, parce que c'est pré-prod, je pense, sur le salon de Cocktail Games à Cannes. Donc, je n'ai pas lu la règle, donc je ne sais pas le pitch exact. En gros, on est perdu dans le désert. Et il va falloir.
Le truc s'est crashé, non ? Ouais. L'engin volant s'est crashé et il faut trouver les pièces
pour reconstituer l'engin volant. Ouais. On est sur un plateau de 5 cases par 5 cases, ça c'est un petit peu pareil que l'île interdite. Désolé, je fais les. J'en viens de la partie Olivier. Et en fait, donc les joueurs ont un certain nombre d'actions, ils vont se déplacer de case en case et ils vont devoir redécouvrir où se situent les pièces. Comment on sait où se situe une pièce ? En fait, c'est là où c'est original, c'est que c'est un système de coordonnées. Donc en fait, on retourne une tuile et ça, bon, il peut ne rien y avoir sur la tuile. Ça peut être des tunnels qui vont permettre d'avoir des raccourcis pour aller plus loin, pour aller à un autre endroit sur le plateau. Ça peut être des bonus, on verra après. Et ça peut être aussi donc les coordonnées, un des éléments de coordonnées d'un objet. Par exemple, si on cherche l'objet qui est rouge, bon, je ne sais plus à quoi ça correspond sur le vaisseau, ça peut indiquer par exemple qu'il est dans telle colonne ou dans telle rangée. Et quand on a trouvé les deux, et ben on croise les coordonnées et il est à cet endroit-là et il apparaît. On le place directement. Quand le joueur a fini ses actions. Il va y avoir une progression comme dans tout jeu coopératif. On a pas dit à la base, c'est un jeu coopératif. Les joueurs sont ensemble et doivent retrouver les pièces du vaisseau. Donc, comme dans tout jeu coopératif, c'est ce qu'on appelle la progression du mal. Donc, il va y avoir des cartes qui vont. C'est la tempête qui va se déplacer. Il y a une tempête dans le désert qui va se déplacer et qui va recouvrir de sable des tuiles. Donc, on va mettre des jetons sable sur les tuiles. Et quand il y a un seul marqueur, un personnage peut quand même traverser. Quand il y a au moins deux marqueurs, un personnage ne peut plus traverser une zone qui est trop ensablée.
Oui, et puis tu es bloqué en fait, tu ne peux pas quitter ta zone non plus.
Voilà, si tu es dessus, tu es coincé et il faudra la désensabler, ne serait-ce même que pour voir ce qui est sous cette tuile, si elle n'a pas encore été découverte. Et la tempête, elle va se déplacer, donc ça dit par exemple 2-3 cases vers le haut, ou bien 2 cases vers la droite, etc. On pioche au début que 2 cartes pour le déplacement de la tempête, puis plus ça va aller, plus on va piocher les cartes pour le déplacement de la tempête. Ce qui va faire bouger les joueurs, ce qui va faire bouger les éléments à retrouver, etc. Autre chose qu'il va falloir faire attention pour les joueurs, c'est...
La déshydratation.
La déshydratation, on est en désert évidemment, il fait chaud.
Il faut boire.
Et donc il faut boire. Alors comment on va boire ? Il y a des tuiles qui représentent des puits. Il va falloir les trouver. Et quand elle est découverte, tous les joueurs, quand elle est découverte, la tuile de puits, tous les joueurs qui sont sur cette tuile vont automatiquement regagner 2 d'eau. En gros, ils ont entre 4 et 5, je crois, d'eau, les joueurs. Et ensuite, on ne pourra plus jamais venir boire à ce puits. Et il n'y a que 2 puits sur toute la carte. On sait les tuiles qui ont des puits parce qu'elles sont repérées sur leur verso. Et il y a un mirage. Il y en a une qui n'est pas la bonne. Il y a un joueur supplémentaire qui pourra récupérer de l'eau pour les autres. Mais heureusement, donc il y a les puits qui sont vite tarissables, on va dire. Mais heureusement, il y a un joueur qui lui est le porteur d'eau et qui va pouvoir plus facilement réhydrater les autres joueurs. Et déjà, il part avec un d'eau de plus que les autres, ce qui est déjà pas mal. Et il peut donner lui de l'eau qu'il a sur lui, etc. Et il peut revenir au puits pour reprendre de l'eau.
Oui, c'est son eau qui donne, hein, c'est pas.
Oui, il donne son eau, mais donc du coup lui peut aller en rechercher au puits.
C'est ça.
Donc voilà, les autres personnages, on est sûr chaque personnage a un pouvoir différent. On retrouve certains personnages un petit peu de l'île interdite, malgré tout. On retrouve celui qui peut se déplacer en diagonale. Il y a celui qui peut désensabler plus. Alors j'aime bien parce que dans l'île interdite, on sablait, là on désable.
Ouais, on essayait d'enlever. Enfin de...
Ouais, on épongeait l'eau, je sais pas comment. Ouais. On mettait des sacs de sable, là c'est l'inverse, donc il va falloir virer le sable. Il y en a un qui va pouvoir traverser plus facilement des tuiles où il y a déjà plein de sable. Et les façons dont les joueurs peuvent gagner, il n'y en a qu'une, c'est qu'il faut qu'ils trouvent tous les éléments du vaisseau et qu'ils soient repartis sur une case, il me semble.
Ouais, c'est plutôt comment ils peuvent perdre, en fait.
Et ils peuvent beaucoup perdre.
Il y a plein de façons de perdre.
Ils peuvent perdre. Donc, régulièrement, on va monter un compteur de la tempête. Elle va devenir de plus en plus forte jusqu'à ce que ce soit une tempête qui, de toute façon, c'est instantanément perdue, un peu comme les montées des eaux dans l'île interdite. Les joueurs peuvent aussi perdre s'il n'y a plus assez de jetons de sable amenés sur les tuiles. Parce que l'air de rien, au bout d'un moment, il y a des tuiles. Elles commencent à avoir 6, 7, 8 jetons. Ça commence à être beaucoup. Donc, il faut aller les virer, ne serait-ce que pour pouvoir justement en remettre dans le stock. C'est un petit peu comme les cubes dans Pandémie. Et puis, l'autre façon de mourir, malheureusement, la plus, on a vu une fréquente, c'est la déshydratation, puisqu'il y a régulièrement des cartes qui vont dire « Vous vous déshydratez », donc les joueurs perdent un dos et il faudra qu'au bout d'un moment, ils aillent rechercher.
Alors, oui et non, parce que tu as quand même... Alors, c'est un petit peu là, ce qui change par rapport à l'île interdite. C'est que le jeu te pousse à faire des actions que t'as te contraint. C'est-à-dire que l'île interdite, tu fais un petit peu ce que tu veux, tu vas à droite, à gauche, oui. tu assèches, tu dis bon ça c'est un endroit que je veux conserver dans ma map, donc je vais l'assécher. Cela, ben j'ai trouvé la statuette, donc j'ai pas besoin de la conserver et donc tu la laisses. Là, en l'occurrence, tu as quand même des mécanismes qui font que le jeu t'oblige. Il t'oblige à te regrouper. Il t'oblige à te regrouper pour bénéficier de l'eau. Parce que on a joué avec mon fils et la première chose qu'il a faite, c'est de dire « Moi, je vais sur le puits, je le retourne. » Et non, t'as pas compris, en fait. Tu le retournes, mais c'est pas l'eau qu'on va pouvoir disposer à tout le monde, c'est seulement les gens qui sont dessus. Et heureusement, c'est il a retourné un puits asséché, donc ça tombait bien. Mais il faut vraiment se regrouper. Et ça, c'est une contrainte. La deuxième contrainte, c'est que pour te protéger du soleil, tu peux aller dans les tunnels.
Oui.
Ce que tu n'as pas dit.
Il y a aussi quelques objets bonus.
C'est ça. C'est que toutes les tuiles ont une fonctionnalité, soit qu'elles te donnent la position de ton bout de
vaisseau,
de nef, soit elles te permettent des choses, soit d'avoir des cartes. La carte, ça peut être le jetpack, ça peut être
le truc qui nettoie
qui désensable.
Qui désensable toute une tuile.
Ouais, des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit plus.
C'est un bouclier contre le soleil.
Bouclier contre le soleil. Et donc, ça t'oblige aussi à te dire à un moment donné, voilà, t'as des endroits, il faut y être, quoi. Et bon, il faut avoir le nez en disant je vais finir mon déplacement peut-être pas sur une tuile qui va m'intéresser, mais je vais peut-être aller un petit peu plus loin, mais dans un tunnel, et comme ça je conserverai mon dos un petit peu à la dune. Donc ça c'est plus difficile et plus contraignant à mon sens.
Ça demande plus de communication entre les joueurs.
Ouais, et puis d'anticipation. Et j'aime beaucoup le dynamisme de la tornade. Qui bouge et qui est en sable et qui c'est vraiment, on retrouve ça un petit peu
qui détruit, qui déplace le plateau, qui va vraiment créer le enfin qui jette, puisqu'il va même des fois te bloquer des passages que tu avais prévu de passer puisque ça t'ensable des tuiles que tu n'avais pas.
C'est ça, et comme t'as pas cette connaissance du terrain au départ de la partie en disant bah, de toute façon il va falloir que j'aille là-bas et si je vais là-bas en premier, bah, ce coin-là je vais plus en avoir besoin, là t'es toujours plus ou moins obligé de conserver tout le terrain accessible, disons, sans
donc, parler. Du coup, c'est ce qui pousse les joueurs d'ailleurs à se répartir un peu sur le plateau, mais effectivement, il faut qu'ils se regroupent régulièrement parce qu'il faut, ne serait-ce que pour se mettre sous le bouclier, pareil, du soleil.
Oui, parce que forcément, le bouclier, quand tu l'utilises, c'est pour tous les gens qui sont sur ta carte et pas forcément sur. C'est pas pour tous les gens qui sont sur l'ensemble du désert, mais seulement pour ceux qui sont sur ta tuile à toi. Bref.
Pour moi, du coup, c'est un jeu qui est très différent d'une interdite, justement pour ses différents aspects.
Très différent, plus difficile.
Beaucoup plus difficile, ouais. Nous, on est mort de déshydratation à on avait trouvé toute la nef à une case du départ.
Ouais.
Quelle déception. Mais on s'est pris deux ou trois quarts de déshydratation, de mauvaise pioche. Quoi. Elles étaient au fil de mélanger, elles s'étaient retrouvées les unes sur les autres.
Tu es en train de dire que c'est un jeu de chance ?
Non, non. Bah non. Ouais. Si on a perdu là, c'est qu'on avait déjà eu mal géré au début.
Parce que vous le méritiez.
Ouais, moi, t'es, voilà. Il faut savoir que c'est comme dans l'île interdite, il y a différents modes. On m'a dit, je crois que sur le mode le plus dur, il avait été gagné genre 3 fois sur 100. Donc
Ah, mais je pense que l'île interdite, nous, on enchaîne les parties. On est, je dis, un cran en dessous du expert. Plus difficile. Parce que le plus difficile, là, ça devient en fonction de la façon dont tu sors les cartes.
C'est pour ça que j'aurais posé la question. J'aurais dit, bon, mais quand on est dans le mode le plus dur, est-ce qu'on peut le gagner ou est-ce que ça dépend du tirage ? Ils m'ont dit, bah, à peu près sur une centaine de parties de test, il a été gagné 3 fois.
Voilà. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est une boîte métal aussi, mais carrée ? Embossé.
Ah, tu l'as déjà vu, non ? Parce que pour l'instant, ouais,
non,
je sais pas.
Je pense.
Ouais, moi, j'ai vu
le format n'est pas le même. J'espère qu'ils vont conserver ce
le format métal et tout.
Ouais.
On peut espérer, ne serait-ce que pour le côté gamme. Mais en tout cas, c'est un jeu que je prendrais, que j'achèterais, parce que moi, je trouvais que l'île interdite, ça ressemble un peu trop à Pandémie, mais il avait l'avantage que je peux le jouer souvent. Je le sors souvent avec mes enfants, ils aiment bien.
Oui.
Le désert interdit, ils ont pu y jouer sans problème. Parce
qu'ils connaissaient.
Ils connaissaient l'île interdite. Donc, même si jamais c'est assez différent, ils étaient quand même en terrain un peu connu. Et du coup, ils ont bien aimé. Ils ont trouvé effectivement que c'était plus dur, mais ça leur a plu quand même. Donc, Et donc, du coup, ça fait un jeu qui est vraiment. En fait, j'ai l'impression que c'est tel. Enfin, j'allais dire tel qu'aurait dû être l'île interdite avant. Je sais pas
Il
faut pas dire ça, mais c'est une version bien plus évoluée qui. Au début, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, ouais, bon, c'est bon, si c'est refaire l'île interdite, ça sert à rien. Et en fait, non, au contraire, il a trouvé toutes les bonnes évolutions, justement pour faire regrouper des fois les joueurs un peu plus que dans l'interdit. Dans l'interdit, il y a quand même des tours où on attend juste. On n'a pas grand-chose à faire pendant son tour, donc on remet des sacs de sable, enfin, je ne sais pas comment on dit, mais on assèche certaines tuiles, en attendant juste qu'on pioche les bonnes cartes. Quoi. Il n'y a plus grand-chose à faire d'autre qu'à attendre. Alors que là, non, puisque tout le plateau n'est pas connu, enfin, il faut vraiment en permanence, on n'a que 4 actions par tour, ce n'est pas beaucoup pour faire tout ce qu'il y a à faire sur le plateau.
Ouais, je suis assez de ton avis. On n'est pas sur le même jeu. Et ça, c'était une très bonne surprise. On n'est plus difficile et ça, c'était aussi une bonne surprise. Par contre, je suis pas d'accord avec toi de dire que c'est l'aboutissement d'un jeu. Je pense que c'est une évolution.
Oui, c'est une évolution. Non, mais en fait, après, je m'en suis repris.
Et que l'île interdite a toute sa place dans une ludothèque familiale. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, c'était juste pour du coop, c'est très bien.
Ou si vous découvrez un peu le monde du jeu, c'est un jeu tout à fait accessible pour ça.
Donc, l'île interdite, c'est un jeu de Mac Leacock qui est sorti chez.
Attention, en introduction, j'ai dit que c'était Tom Lehman. Tom Lehman,
je te dis oui.
C'est assez bizarre, mais voilà. Oui, c'est Matt Leacock,
donc,
pardon.
Matt Leacock, tu vas voir. Mais c'est bien, donc je vous rappelle, pour tout commentaire, c'est podcast.proxy-jeu.fr. Donc, Matt Leacock, paru en 2010 dans une jolie boîte métal demi-format par rapport à une boîte style Aventure du Rail ou autre. 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, comptez, si vous jouez entre adultes, avec des enfants, ça peut être 8 ans, 30 minutes et à peu près 25 €. Sachant que Forbidden Desert, donc le désert interdit, est également designé par Matt Leacock. Il va sortir chez Cocktail Games en 2013.
Je pense même dans pas longtemps, parce qu'a priori, il est en production.
Juin, non ?
Oui, à mon avis, c'est quelque chose comme ça, c'est avant l'été.
Eh bien, super. Alors ça, c'est typiquement le truc, il faut l'acheter et puis partir en vacances avec.
Voilà. Ouais.
Et si vous partez en famille, c'est super. 2 à 5 joueurs, donc un joueur de plus, 10 ans et plus, je pense que... Pareil, si vous êtes entre adultes.
Ça peut marcher à 8 ans.
Hein. Les enfants peuvent pas jouer seuls à ça, je pense.
Non, il faut jouer en famille, oui.
Et par contre, 45 minutes, je pense que c'est un petit peu plus long aussi que...
Oui, c'est un peu plus long.
Voilà, puis ça va être, je pense, autour des 30 €. Et moi, je voulais vous parler d'Augustus. Alors, Augustus, on reste dans les jeux, on va dire, familiaux, les jeux auxquels on peut jouer avec des enfants. C'est un jeu de Paolo Mori, qui est l'auteur de Libertalia.
Voilà.
Illustrateur Vincent Dutré, chez Hurricane. Donc un petit coucou à la Suisse, paru en 2013, 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, et pour 30 minutes, explication des règles comprises.
Oui, largement.
Pour environ 30 €. Alors, vous ouvrez cette énorme boîte.
C'est une boîte la taille énorme. De Seven Wonders.
C'est ça. Et là, vous avez un petit sachet noir de la taille de celui qu'on a dans les colons de Catan.
Ouais.
Donc, sachet classique. Et vous pouvez tout mettre dedans. C'est-à-dire que une petite poche en tissu, et vous pouvez mettre tout le matériel de Augustus, sauf, bien sûr, la règle.
Et le...
Parce que, messieurs, dames de Hurricane, vous êtes un peu foutus de la gueule du monde. Ils ont fait un... Il n'y a pas de format pour cette règle. C'est-à-dire que c'est une règle en accordéon.
Elle fait la largeur de la boîte.
C'est ça, elle est grande. Elle fait c'est 30 par 30. 30 cm par 30 cm, quelque chose comme ça. Et sur recto verso, donc il y en a 6 pages, mais au lieu d'être en format livré,
ça se déplie, c'est en panorama.
En accordéon, en panorama, voilà. Donc 3 pages, donc ça fait 30 cm sur 1 mètre, la règle, recto verso.
Avec une règle qui est en plus découpée par plein d'aides de jeu au milieu, on s'y retrouve pas facilement au début.
Bref.
Pour une règle super simple, tu aurais pu être dans un petit livret.
C'est ça.
Dans une petite boîte.
Est-ce que tu connais le bingo?
Bien sûr.
Et ben voilà, tu connais Augustus.
Ah bah c'est bien.
Voilà.
J'ai gagné le poulet.
Et on me l'a présenté comme ça.
Mais c'est comme ça.
Ouais.
C'est comme ça que je le présente, mais du coup c'est pas vendeur en fait. J'ai regretté de la présenter comme ça.
C'est fin de Noël, il me dit ouais tu veux jouer, tu veux essayer Augustus, c'est comme le bingo. J'ai dit non. Non, j'ai pas même une demi-heure à perdre pour jouer au bingo. Il me dit non, c'est vachement plus intéressant. Bon, ok. Alors pourquoi c'est plus intéressant? Comment ça marche? On a des contrats réalisés. Les contrats sont de deux types, puisqu'il y en a une thématique qui est romaine, on a des personnages, et puis on a des régions. Donc on peut acquérir, prendre le contrôle soit de personnages, soit de régions. Et comment on fait? On a le petit sachet noir dont je vous ai parlé, dans lequel on va avoir 32 tuiles.
23.
Oui, je les ai comptées, j'ai dit qu'il y en avait 23, bref. Chacune représentée en un nombre complètement différent, c'est-à-dire il y a 6 tuiles avec 2 glaives, 5 tuiles avec un bouclier, 4 tuiles avec un petit char, 3 balistes,
catapultes,
2 emblèmes, un poignard et puis 2 jokers. Donc en fait, il y a des probabilités qui rentrent en compte, c'est-à-dire qu'on est sûr, on est plus sûr d'avoir des doubles dagues plutôt qu'un poignard.
Ça, c'est la théorie.
Ça, c'est des probabilités.
C'est la probabilité, voilà, exactement.
Et en parallèle, sur chaque carte, par exemple, on a un des personnages qui est Julius Aurelius Long. Lui, il a 3 épées doubles plus un bouclier. Il vaut 6, donc 6 points de victoire. Et c'est un contrat qui se fait plus ou moins facilement, enfin plutôt facilement, avec des tuiles qu'on a normalement assez facilement. On a au départ 3 contrats qu'on choisit parmi 6. Il faut tout de suite rentrer là-dedans, parce que de toute façon, même avec des gens qui ne connaissent pas le jeu, il suffit de leur dire prenez des choses que vous pourrez réaliser assez facilement. Et à chaque tour, quelqu'un va secouer le sac, va prendre toutes les tuiles, et puis il va sortir les tuiles une par une du sac, et va dire, par exemple, je le fais en live, attention, un bouclier.
Oh!
Chaque joueur va avoir à sa disposition 7 meeples, il va prendre un meeple et va le mettre sur un de ses 3 contrats, sur un bouclier.
7, c'est pas beaucoup. Faut pas en mettre sur les 3 tuiles.
Ah bah après, c'est chacun.
Je connais qui se retrouvait bloqué, on lui dit non, allez, tu peux revenir en arrière, tu peux placer le dernier bonhomme.
Sachant que lorsque tu as placé tes 7 meeples, tu peux le déplacer. C'est-à-dire tu peux prendre un meeple d'une des cartes et le mettre sur une autre carte. Bon, c'est pas optimum et c'est pas la meilleure façon de jouer, mais voilà. Donc ça, c'est le concept. Ensuite, les points de victoire peuvent être gagnés de plusieurs façons différentes. Donc on l'a vu tout à l'heure, par exemple, Julius Aurelius rapporte 6 points. Donc, on va avoir...
Pour finir le contrat, il suffit d'avoir mis autant de pions qu'il y a de symboles. Par exemple,
voilà,
sur Julius Aurelius, il y a 4 symboles. Une fois que j'ai mis 4 légionnaires dessus, hop, c'est bon, je le score. Donc je le mets de côté.
Et puis, alors lui, le Julius n'apporte rien de spécial. Par contre, il y a des régions qui permettent de changer des emblèmes des provinces. Pardon.
C'est dans le thème, monsieur.
Des provinces qui permettent de changer des tuiles en autres tuiles. Par exemple, la Mésopotamie permet de changer les emblèmes en poignard, donc de changer les probabilités. On a des provinces qui permettent de scorer des points supplémentaires par rapport aux emblèmes qu'on a sur les contrats qu'on a réussis. ou par rapport au type de province qu'on a.
D'autres provinces,
les provinces
aussi,
il y en a trois, il y en a des roses, des oranges et des vertes, qui ne doivent pas être en nombre égal parce que...
Non, elles sont, pas même, sont plus dures à obtenir.
Voilà, donc les vertes rapportent 2 points pour chaque province, les roses 4, et puis je suppose que les c'est oranges 6. Fassent 6. On a aussi, sur les personnages, des bonus supplémentaires, par exemple...
Tu gagnes 2 légions.
On gagne 2 légions, dont 2 meeples, on peut poser 2 meeples sur des boucliers, etc., etc. Alors ça, c'est le petit bonus. Et puis, ça peut être pour certains points de victoire. Par exemple, un symbole rapportait des points de victoire. Et puis, autre façon d'avoir des points de victoire.
Des majorités, des choses comme ça.
Sur la table, au début de partie, on va avoir un certain nombre de points. On va avoir 5 points pour celui qui a plus de provinces productrices de blé. 5 points pour celui qui aura le plus de provinces productrices d'or. Il n'y en a pas beaucoup, c'est ça qui est marrant.
J'étais étonné parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de bagarres que ça pour l'or et le blé.
Ouais. Ah, mais ça, c'est dans l'extension. C'est pour ça qu'ils ont fait une grosse boîte. le jeu se finit quand 7 contrats ont été réalisés. Celui qui a fait le premier 2 contrats peut prendre une tuile 2 points de victoire.
Dans ce cas-là, il ne pourra pas en prendre d'autres.
Ah bon ?
Eh.
Oh,
donc en général, tu prends pas parce qu'en fait, on peut prendre une tuile contrat quand on a réussi 2, 3, 4, 5 ou 6, je crois. Mais quand on en a pris une, on n'a plus le droit d'en prendre. Donc il y a une partie course là.
Des 4, 6, 8, 10.
Les points ?
Ouais.
Mais le nombre de contrats.
Ah, c'est 2, 3, 4, 5, 6.
Voilà. Et donc par exemple, j'en ai 5 contrats, mon voisin, je sens qu'il va bientôt faire le 6ème, je me dis ok, je prends celle qui fait 5, qui est pour 5 contrats, je fais déjà 8 points, c'est déjà bien.
Mais c'est quand tu la réalises ? C'est le moment où tu le réalises.
Oui, c'est le moment où tu le réalises. Tu choisis si tu la prends ou pas. Mais après, c'est fini. Tu pourras pas. Voilà, il faudra reposer un contrat et tu pourras pas en prendre une deuxième.
Bah, comme quoi. Hein. Moi, c'est les colons de Catane. J'ai mis très très longtemps à avoir les bonnes règles. Voilà. Là, c'est un petit peu pareil. Mais c'est
RTFM.
Ouais, c'est ça. Et puis, le premier joueur à avoir 3 personnages peut prendre 2 points de victoire.
Les sénateurs.
Quoi
des personnages,
des personnages sénateurs, des points de victoire aussi pour les provinces, et puis il y en a une qui est mixte.
Et t'en as un peu de tout.
Donc voilà, donc des probabilités, du choix quand même, parce que en fonction de lorsqu'on réalise un contrat, on va en prendre un. Il y en a 5 faces visibles, on en prend un au choix.
Oui.
Donc on choisit lequel avec un système de premier joueur. Chaque carte a un numéro et c'est le plus petit qui choisit en premier. Donc voilà, c'est hyper simple à expliquer, c'est rapide à jouer, il y a des choix.
Peut-être pas hyper profond.
Eh ben, tu vois, moi je le rapprocherais de The City.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas un jeu incroyablement profond, c'est pas le jeu de l'année.
The City, les choix sont plus durs que dans Augustus.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus un bingo, quoi.
Ah non, c'est mieux. Mais moi, ce que je reproche, c'est qu'une fois que t'es parti sur un contrat, admettons un contrat qui demande quand même 5 légionnaires sur 7, bah, tu sais qu'en gros, bah, t'as plus qu'à attendre que les machins soient piochés, quoi.
Oui, mais donc, ils viennent vite.
Bah, ou pas, ça dépend des symboles que t'as choisis, mais.
Bah, t'as mal choisi alors.
Quand je te dis que les probas, des fois, ça marche pas, quoi.
Ah, mais s'il a pas de chance.
C'est ça.
Mais c'est ça, en fait. Tu te plains parce que t'as pas de chance et donc tu peux paralyser ton
contrat. On a fait une partie quand même. Je crois qu'on avait 3 objectifs et il y en a qui étaient déjà à 7. On s'est fait défoncer la partie. Ça a été incroyable.
Et alors, il a eu de la chance ou c'est vous qui avez mal joué ?
Ah, il y a eu un peu des deux. Ouais. Non, on a pas mal joué, mais il a joué vite. Il a eu de la chance et il a fait des petits contrats en fait. Quand on s'est engagé dans des trucs un peu longs. Et voilà. Mais non, mais c'est pour dire que je trouve qu'il y a des choix, mais ils sont pas si souvent que ça. En gros, tu choisis quel contrat tu veux prendre pour mettre devant toi et ensuite lequel tu commences. Éventuellement, tu peux en commencer un deuxième et faire que des petits. Mais
c'est pour ça qu'on est dans un jeu familial.
Voilà.
Ils ont fait un petit sac pour qu'on puisse l'emmener en vacances. On est en train de préparer les jeux qu'on va emporter. L'île interdite, Augustus.
On prépare déjà
avec les enfants. Et puis le soir, on se prendra Ascension pour jouer avec Madame.
Voilà. Parce que cet épisode ne sera en ligne que le 25 juin. Donc on prépare déjà l'été. C'est déjà le dossier été.
Et on est au printemps, ça va. Hein, d'accord.
Je ne l'ai pas encore testé avec les enfants, en fait. Mais au départ, il m'a été vendu un peu comme un Seven Wonders, comme le nouveau Seven Wonders, tu vois.
Non, qui t'a dit ça ?
Je ne sais plus. Et après avoir joué, je dis ou alors on ne joue pas Seven Wonders de la même manière. Niveau profondeur, on n'est pas au même niveau. Non, mais il a l'avantage, en fait, que tu peux jouer à 6 et en moins de 30 minutes. C'est pour ça, je pense qu'il y avait
des enfants.
Et tu peux jouer avec les enfants.
Non, mais 6, c'est chiant.
Ah bah,
pas si tu me diras.
C'est comme le bingo. Et on parlait de streams c'est quand on a quand on a débriefé Cannes.
Oui.
Et on disait le problème de stream, c'est qu'il y a pas d'interaction. Mais c'est un peu comme un bingo streams, mais t'as des choix plus durs c'est à ça. Faire sur ta feuille. Mais par contre, t'as pas d'interaction. Donc sinon, tu peux te rabattre sur Augustus. T'as moins de choix à faire. Par contre, t'as l'interaction puisque t'as la course pour les objectifs. Là, pour le coup. Tu peux dire, je vais essayer d'avoir avant l'autre, je vais essayer d'avoir celui qui fait, j'ai déjà 5 objectifs, je prends les 8 points avant mon adversaire. Ou bien, je vais tenter d'avoir 3 provinces vertes avant les autres pour choper les bonus.
C'est ça, ouais, et t'as quand même, c'est faut quand même regarder autour de soi, mais c'est, ouais. C'est pour ça qu'à 6, c'est...
J'ai pas joué, j'ai joué à 3.
Ouais, c'est bien. C'est bien avec des enfants. Ou avec grand-mère, parce qu'elle connaît le bingo.
Ouais. Enfin,
ça va pas la dépayser. Mm. Grand-maman, alors on va tirer des choses dans le sac et tu crieras Kin quand t'auras les.
Non, ça c'est AV. On dit AV César. Non,
c'est jeu. Et quand t'arrives à 7, tu dis bingo.
Tu dis ligne ou carte quand t'as rempli ta carte.
Et là, la mémé, elle fait bingo. Et toi, t'es là, t'as 5 contrats et voilà. Bref, c'est ça, Augustus. Donc, je vous rappelle, Paolo Mori, chez Hurricane, 2 à 6 joueurs pour 8 ans et plus et une trentaine de minutes. Explication des règles comprises à peu près 30 euros. Bon, puis là, ça suffit. Hein. Les jeux pour la famille, les jeux. Maintenant, il faut savoir. Tu as un jeu.
Place au jeu de gamer, là.
C'est le jeu que tu vas pouvoir emporter en vacances et sortir avec madame.
Exactement, c'est ce que j'ai fait lors de mes vacances à Cannes. Et donc, c'est Keyflower. Keyflower, c'est un jeu de Richard Breeze et il est accompagné cette fois-ci de Sebastian Blisdale. Que je ne connais pas, peut-être qu'il a fait l'autre jeu. Richard Breeze, il faut savoir qu'il a sa petite maison d'édition qui s'appelle R&D Games, que tous ses jeux commencent par qui quelque chose, et que c'est Madame Breeze en général, c'est Juliette, je crois, son prénom.
Julia ?
Non, c'est Madame qui fait les illustrations.
Et j'ai pas dit Julia ?
Ah, t'as dit Julia, pardon, je comprends Julia.
T'as dit Juliette ?
Non, c'est Juliette.
D'accord, Juliette.
Et il y a aussi un Joe Breeze, donc sans doute le fils, bon, c'est une affaire de famille.
Oui, c'est une affaire qui roule. Donc, qui t'aidera ?
Qui t'aidera, qui Harvest ?
Démettra.
Ouais, mais putain, tu triches. Demetra, c'est une réédition de Harvest
chez Queen Goblin.
Ouais, qui avait été toute.
C'est comment tout joli. Queen Goblin.
C'est compliqué parce qu'ils ont changé. Entre temps, ils ont deux maintenant. Il y a Queen Games et White Goblin Games.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Bref, c'était très bien, mais c'est très bien, Demetra.
Ouais, j'avais. Cathedral, c'est un peu un style. Allez, je vais schématiser, hein, mais pour moi, c'est un peu un remake de Colon Catan. J'avais été un peu déçu en fait. Je
m'attendais mais à pas un gateway game.
Non. Et là, Keyflower, donc du coup, j'ai hésité, mais il a eu de très bons échos à Essen, donc je me suis senti obligé. Et j'ai pas été déçu, vous allez voir pourquoi. Le principe, donc déjà, oui, je disais qu'il a sa maison d'édition, Richard Breeze, il sort en général son jeu à Essen, et ensuite derrière, il le sort en un nombre limité. Hein. Je sais pas, il a dû faire un tirage de 1000 boîtes, quelque chose comme ça. Et ensuite, le jeu, il est réédité, il est repris par d'autres éditeurs. Donc en France, c'est Gigamic. Et en Allemagne, c'est Hutch & Friends qui l'a repris.
Ok.
Le principe du jeu.
Donc tu veux dire que c'est bien distribué et a priori, on n'aura pas de problème de pénurie.
Ouais, si je ne me trompe pas, la version française est arrivée maintenant en France.
D'accord.
Donc on peut y aller.
Tu veux dire qu'il y a du texte ?
Non. Il y a strictement zéro texte d'important sur les cartes, etc. Moi, j'ai la première version, donc j'ai... la règle qui est à la fois en allemand et en anglais. Donc, on peut très bien jouer avec la version originale, mais maintenant que Gigamic l'a traduit, pourquoi se priver ?
Verkstatt.
Oui, les tuiles, elles sont marquées en anglais ou en allemand, mais bref.
Cool.
C'est pas gênant, c'est juste le nom des bâtiments. Le concept du jeu, vous allez devoir développer votre colonie. Ça se joue en 4 saisons. Non, il y avait un parallèle plutôt avec Mirmes qui est sorti en même temps. Où tu joues, mais Mirmes, tu joues sur 3 ans, mais tu joues aussi les saisons. Donc les 4 saisons, c'est évidemment printemps, été, automne et hiver.
Et l'hiver, c'est une saison d'upkeep.
Non, pas là, quand même.
Bon, d'accord. Entretien, pardon.
Non, en fait, l'hiver, c'est plus subtil, on verra. L'hiver, c'est la saison. En fait, en début de partie, on te donne des tuiles. On va te donner par exemple à 2 joueurs, tu as 3 tuiles, je crois que tu en as moins à plus de joueurs, qui sont les tuiles que tu mettras justement à disposition de tout le monde en hiver. Et ces tuiles, c'est les tuiles qui font marquer beaucoup de points de victoire. C'est un peu les gros bâtiments de Puerto Rico. Donc c'est là qu'est la subtilité, puisqu'en début de partie, tu as ces tuiles qui vont déjà un petit peu orienter ta stratégie pour le reste du jeu. Et tout seul, toi, tu connais ces tuiles-là. Tu connais pas les tuiles qu'ont eu les autres joueurs, mais tu connais ça. En contrepartie, j'anticipe déjà sur la. les côtés positifs du jeu, mais en contrepartie, ça veut dire que tu vas aussi surveiller ce que font les autres joueurs pour essayer, pour deviner. En tout cas, tu vas savoir un petit peu quels sont les objectifs qu'ils vont poser sur la table. Donc, tu peux essayer de te placer également pour revenir jouer un peu les troubles fêtes.
Ouais, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut connaître un minimum les objectifs, l'ensemble des objectifs pour dire celui-là, il va faire cet objectif-là.
Ouais, c'est au bout de quelques parties. Ça vient vite. Hein. Ça vient vite.
La durée de partie, excuse-moi, c'est
C'est super court. Enfin, deux joueurs.
Tu veux dire 20 minutes.
Il met 90 à 120 minutes. Mais ça, c'est, je pense, quand tu joues à beaucoup. Mm-hmm. Quatre joueurs, machin. Si tu joues à deux, il te faut trois quarts d'heure, même pas.
Ah, donc c'est court.
Ah, c'est très court parce que tu as que 4 tours. Et donc, je vais vous décrire les tours. Donc, au début du tour, alors, juste au niveau du matériel, quand même. C'est un jeu, il y a 140 meeples issus de, qui sont les mêmes meeples que dans Carcassonne. 141 exactement. Ils sont dans toutes les couleurs. Enfin, il y a bleu, jaune, rouge, vert et un violet pour le premier joueur. Et c'est exactement ceux de Carcassonne. C'est-à-dire qu'ils ont demandé en fait les droits à un team Gluck, leur a autorisé à refaire les meeples. Donc, il y a un petit clin d'œil. Donc, les meeples, ils s'appellent les keeples. Forcément, Richard Bruce oblige, mais voilà. Donc le principe, donc il va y avoir, les joueurs vont avoir des meeples qui vont cacher derrière leurs écrans, leur écran. Les meeples, ils sont trois couleurs, bleu, jaune ou rouge. On verra, on peut en avoir des verts plus tard, et c'est super important.
C'est mâle, femelle et...
Non, en fait, t'en as un, tu t'en fiches. Après, le reste du matériel, c'est des tuiles, c'est des gros hexagones qui font bien 5 cm, voire même plus, je pense. Hein,
bah, c'est 4
de diamètre. Ouais, peut-être. Un peu plus petit, donc, Catan.
Un petit peu plus petit, mais pas...
Mais ils sont quand même gros et qui vont, sur lesquels on va pouvoir poser les meeples. Le but, c'est de faire développer sa colonie. Au début du tour, on va poser, en fait, on va piocher parmi, je sais pas, il y a 12 tuiles. Printemps, par exemple, on va en piocher, on va en mettre en vente 6, 8, 10, en fonction du nombre de joueurs.
Tu veux dire que, parce que tu as mis les tuiles dans 4 petits sacs, il y a des tuiles pour chaque saison ?
Pour chaque saison.
Ah,
parce que c'est un jeu de développement, donc forcément les tuiles de début, enfin tu vois, tu as des tuiles qui vont produire des ressources au printemps, et puis plus ça monte, plus c'est des tuiles complexes.
Tu les remplaces en
cours de saison ? Non, tu les remplaces pas. Non, tu vas venir compléter ton plateau individuel.
Donc t'as pas de cohérence en fonction de la saison.
Non, et non, puis c'est plus, enfin c'est donc comme on prend qu'une sélection des tuiles, tu n'as pas toujours toutes les tuiles par exemple qui vont produire. Tu vas pas avoir celles qui produisent du bois pendant une partie. Tu peux très bien avoir zéro tuile qui produise du bois. Et ben faudra t'adapter avec ça. Il y a plein de choses comme ça. Donc par exemple, à deux joueurs, on va mettre 6 tuiles qui seront proposées aux enchères, d'accord, pendant la partie. Comment ça marche dans le jeu ensuite ? Chacun son tour, on va faire une action. Une action, c'est quoi ? C'est, je peux prendre derrière mon écran des meeples et les placer ou bien pour enchérir sur une des tuiles qui est au centre, ou bien utiliser l'effet de la tuile qui est un bâtiment en fait. Donc ça peut être, je peux utiliser les effets des bâtiments qui sont proposés aux enchères, qui sont chez moi dans mon village ou qui sont aussi dans les villages de mes adversaires. Si je les mets, ceux que je mets dans mon village, à la fin du tour, je les récupérerai. Ceux que j'ai mis ailleurs, ils sont perdus. Et ceux que je mets aux enchères, c'est pareil, ils sont perdus. D'accord ? Mes meeples que j'ai misés, ils sont perdus.
Tu me diras à un moment donné pourquoi ils ont des couleurs différentes ?
Ouais, justement, ça va venir. Mais à la fin du tour, on pourra récupérer des meeples. La subtilité des couleurs maintenant. Si jamais j'enchéris, par exemple, avec un meeple rouge sur une tuile, mes adversaires, s'ils veulent surenchérir pour avoir cette tuile, ils devront enchérir uniquement avec des meeples rouges.
Ouh.
Et. Si un joueur veut utiliser le pouvoir de cette tuile, il devra aussi mettre des meeples rouges, parce que j'en ai jamais mis un rouge. D'accord ? Ensuite, quand on utilise un bâtiment, je peux mettre un meeple sur un bâtiment pour l'utiliser une fois. Mais si je veux le réutiliser une deuxième fois, j'ai le droit, mais il faut que je mette deux meeples de la même couleur, rouge.
D'accord.
Et je peux le réutiliser une troisième fois, il faudra que je mette trois meeples. Bien sûr, notre joueur peut le faire aussi, mais il fait pareil, il faut qu'il mette des meeples de la même couleur.
Mais vert, c'est un joker.
Non, mais attends, et jusqu'à 3 utilisations sur un bâtiment. Et vert, eh ben non, mais vert, c'est une couleur que tu ne peux pas avoir normalement, que tu n'as pas dans le sac, que tu ne peux pas avoir en fin de tour.
C'est une couleur foutue à merde.
C'est un meeple. Ouais.
Parce que si toi, t'as du vert et que les autres n'ont pas de vert, ils sont niqués. Ils sont baisés. Ils sont eus.
Et oui. Et tu pourras avoir des verts, en gros, il va falloir que tu troques tes meeples d'une autre couleur pour avoir des verts. C'est très subtil, hein. Tu peux. Alors attention, en sachant qu'il y a une des tuiles, justement une fameuse tuile d'hiver, qui te permet d'avoir, tu marques, je sais plus, genre 2 ou 3 points de victoire par bonhomme, par meeple vert que tu as. Tu peux mettre du rendement là.
Et donc, je sens qu'il y a beaucoup d'interactions dans ce jeu.
Il y a beaucoup d'interactions. Il faut beaucoup calculer tes meeples déjà derrière ton écran. Parce que par exemple, tu peux avoir très peu de jaune et beaucoup de bleu et moyennement de rouge. Et du coup, il faut que tu saches quelle couleur tu vas miser où, etc. Il faut que tu te rappelles un petit peu, parce que tu sais un petit peu ce qu'a ton adversaire derrière son écran. Ils sont cachés, mais il faut suivre un petit peu quand même ce qu'il a joué comme couleur. Voilà, le reste des subtilités, une fois que tous les joueurs ont passé, on finit le tour. Alors quand on a utilisé un bâtiment, on bénéficie tout de suite de son effet. Par contre, quand on a fait des enchères, c'est qu'à la fin du tour qu'on va prendre les bâtiments, on a gagné les enchères et on va les venir les intégrer dans le village.
Donc il y a un rythme à prendre et...
Ouais, pour les intégrer dans le village, attention, il faut qu'il y ait des connexions avec des routes, il faut que ça marche correctement.
Ah, c'est ce que je voulais te demander, parce que sur les tuiles, effectivement, il y a des chemins.
Oui, bah, il faut que ça marche. Alors, au printemps, ils ont 4 routes, en été, ils en ont 3, à l'automne, ils n'ont plus que 2 routes, et en hiver, il n'y a plus qu'une route. Et il faut que ça... Voilà. Et il faut que ça matche sur tous les angles. Si sur des hexagones, c'est pas toujours simple. Au milieu de ça, il peut y avoir aussi des bateaux en été qui vont rapporter des bonus. C'est-à-dire que tu vas pouvoir un petit peu enfreindre certaines règles. Tu vas pouvoir avoir des actions un peu bonus. Et puis, tu as des tuiles surtout qui sont sur les premières saisons qui te permettent de... En fait, tes tuiles, tu peux les upgrader. D'accord ? Tu as une tuile de base et tu peux l'upgrader en la retournant. Elle va avoir plus de points de victoire, elle va avoir plus de production, des choses comme ça. Mais pour y arriver, pour faire un upgrade, il va falloir payer quelque chose, il va falloir dépenser des ressources. D'accord ? Donc ça peut être du bois, par exemple, parce que tu as déjà la tuile qui produit du bois. Mais il va falloir amener ton bois sur la tuile que tu veux upgrader. Et pour le faire, il faut que tu utilises des tuiles de transport. Les tuiles de transport, par défaut, ta tuile de départ, elle te permet de déplacer en gros une ressource de une case. Si tu l'upgrades, elle permet de déplacer... Enfin, deux ressources de une case. Ça peut être deux fois la même ou deux différentes. Et il y a des tuiles de transport beaucoup plus costauds. Mais on a fait une partie où jamais les tuiles de transport sont arrivées. Hasard de la pioche. Et bah c'est dur. Et tu joues pas du tout de la même manière qu'une partie où à l'inverse on avait tous upgradé les transports. Et alors là, je te dis pas les scores à la fin.
D'accord. Mais c'est quoi ces petites tuiles là?
Et ça c'est encore autre chose. C'est encore des tuiles. C'est des compétences que tu peux aussi utiliser pour upgrader ou pour utiliser des
alors,
tuiles.
Alors il y a enfin c'est... Le jeu est complet de base avec ces tuiles-là ou alors
ouais, non, tu joues avec de... aussi directement. Non, c'est complet aussi ça.
Donc tu as des ressources.
Tu as des ressources.
Petits
octogones.
Octogones gris, marron, jaune et noir.
Voilà.
Et puis tu as les compétences associées. Tu as la scie du charpentier, la pioche du mineur.
Et puis les enclumes.
Et l'enclume pour le forgeron.
Et puis il y a surtout les écrans. Si sort la petite maison dessous, là, sont dessous pour les protéger. Alors les écrans, ils sont sublimes.
Comme à l'habitude avec les jeux
de brise,
je crois que c'était Carvest ou Demetra, toutes les tuiles, même si c'était des tuiles qui étaient identiques, elles étaient toutes différentes.
Dans Cathedral, ouais, toute une illustration différente. Bah là, c'est pareil, de toute façon, c'est toutes différentes. Et donc là, les joueurs, ils ont des petites maisons qui font les écrans. Elles sont toutes belles, elles sont décorées des deux côtés. Elles ne servent pas d'aide de jeu. Alors par contre, elles sont... Elle masque bien, on voit pas les meeples qui sont dessous. Donc si vous jouez un soir avec un faible éclairage, vous aurez du mal à discerner les couleurs de vos meeples. Mais bon. Parce qu'il y a même des illustrations à l'intérieur. Par contre là, les maisons, il y en a... Il y a des planches qui sont identiques.
Et t'as pas besoin d'aide de jeu?
Non, parce qu'en fait, le tour, il est simple. Après, ce que t'as besoin, c'est à la fin de la règle, évidemment, tous les bâtiments, ils ont des pouvoirs un peu spéciaux. Donc des fois, il faut retourner voir ce que fait tel effet, etc. C'est... comme on veut, c'est un effet. C'est des bâtiments, mais un effet. Le.
Ok. Hein,
voilà.
Parce que chaque bâtiment n'a qu'un seul effet, ok.
Voilà. La richesse du jeu, elle est énorme. Le potentiel, il est énorme. Chaque partie est complètement différente, puisque toutes les tuiles. Enfin, ça va vraiment varier ce qu'on va mettre. Il y a une dimension stratégique, puisqu'on sait déjà une partie des tuiles qui vont apporter des points de victoire en fin de partie. On a une interaction avec les autres joueurs, parce qu'on sait leur meeple, et donc on va tenter au niveau des enchères. On va même des fois faire exprès d'aller utiliser une tuile de l'adversaire dans une couleur qui va l'embêter.
Tu veux dire que tu lui mets un bâton dans les roues, tu sais qu'il n'a pas de rouge, et tu veux dire, tu veux utiliser ta tuile, et ben paye
voilà,
maintenant.
Voilà. Ou tu sais qu'il a peu de rouge et ça va l'embêter.
C'est horrible en fait. Et tu parles d'enchères, mais c'est des enchères que je dirais douces. C'est-à-dire que tu vas. C'est pas des enchères au point fermé où tu vas dire je mets 2, 3, 4 meeples.
Ah oui, non. Puis on est comme dans Péloponnèse. C'est-à-dire que si je monte, par exemple, moi j'avais mis un meeple, toi tu montes sur moi, tu en mets 2, je prends mon meeple et je peux le remettre ailleurs.
Ça c'est bien. Ou dans Evo.
Voilà. Ouais, c'est les principes. Voilà, ça c'est pas mal.
Ouais, c'est ce que j'appelle les enchères douces. C'est pas. Est-ce que tu peux monter Tu peux mettre 3, 4 meeples.
Ah bah enfin sur les derniers tours notamment en hiver tu montes à plus
Oui, mais
ça devient méchant. Tu vas faire exprès de faire cracher l'autre, tu sais qu'il va scorer avec les verts, tu veux lui en faire cracher le maximum. Ouais. Par exemple, pour pas qu'il marque les points, il y a tout enfin une subtilité énorme. Alors l'inconvénient, enfin à deux, il est parfait. À deux, il tourne très très bien. À trois joueurs, je pense que ça va et plus on monte parce qu'il peut jouer à six, à mon avis. Après c'est dur justement, je dis que c'est important de savoir ce que le joueur a derrière son écran, plus t'as de joueurs, plus ça va être compliqué de savoir qui a quoi. Et je pense que t'as moins de contrôle sur le jeu.
Ouais.
Voilà, c'était Keyflower donc.
Bah, je suis un peu dégoûté. Hein.
Pourquoi?
Bah, parce que j'ai envie d'essayer maintenant.
Bah, faudrait que je te le prenne, mais faut que tu m'emmènes mon Mirmes.
C'est ça, c'est ça. Mais faudrait que j'y joue, mais je joue à Ascension, donc je peux pas tout faire.
Non, Keyflower, c'est très bien parce qu'en plus, en format 2 joueurs, c'est vraiment un jeu pour vos vacances, hein, parce que ça se joue en 45 minutes.
Oui.
Ouais, par contre, j'ai pas joué à beaucoup plus, donc je pourrais pas vous donner un avis plus important. Donc, Keyflower, c'est un jeu de Sébastien Blisdale et Richard Breeze. Paru chez.
Par Juliette Breeze et Joe Breeze.
Voilà. Paru chez Gigamic pour la France, pour 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans. Et sur la boîte, c'est marqué 90 à 120 minutes. Je dirais qu'à 2 joueurs, à part votre première partie qui mettra bien effectivement 1 heure et quart. Sinon, vous serez plutôt au format 3 quarts d'heure.
Et entre 40 et 45 euros. Et on vous le recommande. Enfin, moi, j'ai
envie après cette
annonce. L'explication m'a assez convaincu, donc j'ai vraiment envie d'essayer. Et puis assez rapidement, je vais faire un retour sur le billet que on vous a mis en ligne il y a quelques jours, semaines, maintenant.
Moi.
Concernant concernant Frontières. Frontières, c'est une histoire rigolote, c'est-à-dire ce Krilin qui est mon copain dans la vie et qui me fait régulièrement acheter des jeux, me dit chez Ludic Bazar, ils font une promo, il y a Frontières à 8 euros. Et ma première réaction, c'était, c'est un jeu à 8 euros, c'est de la merde.
Bah oui, forcément, c'est toujours ce qu'on se dit.
Sachant qu'ils ont quand même des Scylla à 15 euros, et Scylla, c'est un très bon jeu, j'aurais pas dû avoir cet a priori, mais bon.
En fait, il faut se dire, c'est un jeu qui n'a pas marché, qui n'a pas trouvé son public.
C'est ça, enfin, il y a plein...
Oui, il y a des jeux, c'est normal qu'ils ne trouvent pas leur public.
Et là, il va plus loin et il me dit, bon bah écoute, il est parisien, si tu passes sur Paris, je te fais essayer ça. Bon, il m'avait fait essayer le bon, la brute, la blonde, la brute et le truand.
Mall of Horror ?
Ouais, que j'avais moyennement apprécié, mais c'est juste un jeu, pas pour moi. Et bon, je me suis plié quand même de bonne grâce à ça. Parce que surtout, il m'a dit, bah, moi, il était très 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 enthousiaste, donc... voilà, je me suis plié, j'aime bien jouer, même je joue à tout et donc j'ai joué à ça. Je suis arrivé chez lui, il avait installé tout, donc une table qui fait à peu près 1 mètre, 1m20 sur 60 cm, un plateau papier sur lequel il y avait...
Papier
ouais,
papier glacé.
Oui, papier glacé.
Que tu déroules.
Où il avait installé une infrastructure et puis des obstacles, mais en 2D, pas en 3D. Ça rendait pas mal. C'était bien. Et puis, il a commencé à faire ses armées en disant... Enfin, il voulait qu'on fasse de la construction d'armées tous les deux. Moi, je voulais pas. Parce que ça ne m'intéressait pas, je ne connaissais pas le jeu, je n'avais pas envie de m'y mettre et puis de passer 3 quarts d'heure à découvrir le truc, je voulais être prêt à jouer. Donc il a fait deux petites armées, ça a pris 10 minutes peut-être, donc c'était assez court. Puis il m'a présenté un petit peu les armées, donc
est-ce que c'est un army building game?
Je sais pas, peut-être, sans doute. Tu les construis. Oui, il y a des points d'armée sur le.
Tu construis facilement, en fait, c'est pas un truc.
Bon, écoute, il a pas eu beaucoup de problèmes, mais je pense qu'il avait déjà ça en tête, et puis il a pris un peu d'infanterie, enfin, pas mal d'infanterie, un peu de tir à distance, genre mortier, et puis. Pour les côtés extraterrestres, t'as un gros vaisseau de transport, donc il avait pris ça. On s'est retrouvé chacun au bout de la carte. Et puis, c'était vraiment c'est de la baston pure. C'est-à-dire qu'on a commencé. Et puis, c'est voilà, tu tapes allègrement, même si tu as un scénario et il faut se déplacer d'un point A à un point B pour aller choper une clé, pour aller détruire je sais pas quoi. Le but du jeu, c'est quand même de taper sur l'autre. Et puis, il y a aussi... Le plaisir réside aussi dans le fait que tu lances des dés et soit tu fais des fumbles et là c'est un désastre, soit tu fais des super bons jets et c'est tout le plaisir de,
ouais, mais
de ce genre de...
Voilà, mais ça se lisse sur une partie de toute façon, c'est de la statistique.
Après, oui, comme pour Augustus.
Voilà, très bien.
Et en fin de compte, pour aller directement à la conclusion, ça a bien rempli ce... Ça a fait le travail, c'est-à-dire qu'on a passé une heure et demie. C'était assez long, mais on n'a pas vu le temps passer. Et c'était vraiment très très plaisant. On a certainement joué bien une heure et demie, explication de récomprise, comprise. Et l'explication des règles n'est pas très très longue. Il faut se référer à une aide de jeu parce que les différentes tuiles, donc les différentes unités, ont des pouvoirs spéciaux. Et je pense que aussi une grosse part du jeu repose sur toute la différence que tu vas avoir entre les unités. Les caractéristiques de la tuile, elles sont très basiques, c'est-à-dire que tu as des points de mouvement avec une réglette, donc tu peux avancer où tu veux. De 1 à 2 rayons. Non, c'est de 1 à 6 rayons. L'unité. Non, c'est des nanosecondes. C'est ça, c'est des nanosecondes lumière. Tu peux avancer de 1 à 6 nanosecondes lumière. Mm-hmm.
Ouais. J'aime mieux quand tu dis des rayons ou des graduations, ouais, ça va bien, moi.
Et après, quand c'est très simple, tu as des points de résistance. Par exemple, les légionnaires ont 6 points de résistance. Et puis, tu as un bonus d'attaque. Par exemple, toujours la carte, la tuile légionnaire, ils ont plus 2 en attaque contre l'infanterie, plus 1 contre les blindés, et plus 0 contre les structures, donc contre les bâtiments. Donc, tu vas lancer ton dé, tu vas ajouter ton bonus, tu vas le comparer à la résistance de l'autre unité, et puis, si tu es supérieur, tu lui fais un P, un pain. Faire un pain, c'est retourner la tuile. Soit il n'y a rien derrière et tu l'as détruite, soit tu l'as amoindrie.
Ça va vite,
non, parce que on avait un certain nombre d'unités quand même. Après, il y a un truc qui est super sympa, c'est les cartes qui sont super cheatées. C'est-à-dire tu peux faire plus 4, tu as des frappes aériennes qui sont dévastatrices, tu as des autoréparations pour les véhicules, en fait ils se retombent pas, donc c'est loupé. Tu as plein de trucs comme ça qui sont marrantes. Tu as un truc qui est très bizarre et qui marche pas vraiment, c'est la ligne de vue. C'est-à-dire que la ligne de vue, c'est tu peux tirer jusqu'à l'autre bout de la table avec un malus de moins 1. C'est tout.
Mais il n'y a pas de ligne de vue.
Il faut que du centre de ta tuile, tu vois un bout de l'autre unité. Tu peux faire de la fumée, il y a vraiment plein de trucs, c'est très riche. Et ça, c'est bien parce que tu sens qu'il y a un vrai potentiel, même après la première partie. Tu dis, je me suis dit que j'aurais pu mieux faire en utilisant mieux les capacités de mes différentes unités. En les déplaçant mieux, en faisant mieux le rythme entre les unités qui sont activées, celles qui ne sont pas activées. Enfin, tu sens qu'il y a un vrai potentiel, que c'est un vrai jeu. Donc au final, il y a deux trucs qui m'ont pas plu. C'est la règle de soin, parce que tu peux soigner des unités et en fait, dans le tour où l'unité meurt, tu peux la ressusciter.
Amen.
Bon, voilà.
Alors, on est pack, c'est bon.
C'est ça. Et j'ai pas aimé ce point de règle, mais après ça se discute ou pas. Et puis le deuxième truc, c'est la règle de vue quand t'es en 2D, quand t'es en 3D, tu vois en fait. C'est plus simple pour voir les.
Ouais. C'est comme dans Heroescape, si tu vois un bout de la figurine, tu sais que c'est bon.
C'est ça, c'est ça. Même si les morceaux de paysage sont en 2D, enfin c'est là en l'occurrence comme c'est tout en 2D. C'est moins facile à voir et il faut un truc vraiment long parce qu'en fin de compte, comme tu joues sur un plateau qui est vraiment très grand, il faut une petite ficelle ou un truc comme ça parce que sinon c'est compliqué. Et sinon, 8 euros, achetez-le. Hein, je veux dire, c'est un truc, t'as vraiment un vrai jeu, t'as des vraies règles, t'as des unités qui sont complexes, t'as un système qui tient la route. Pour 8 euros, pour initier un enfant, c'est super quoi.
Et t'as joué avec le matos de base ou t'avais des jetons qui avaient des trucs collés dessus?
Non.
Parce que Krilin, dans son.
Oui, il dit.
Il recommande qu'à ce prix-là, autant acheter 2 boîtes, comme ça vous pourrez imprimer ce qu'il y a. Il y avait des suppléments, il y avait des extensions qui étaient prévues qui n'ont pas été faites, donc les auteurs les ont mises en ligne et tu peux les imprimer et les coller sur ton matos.
Non, c'est juste le jeu de base. C'est juste le jeu de base.
Déjà, le jeu de base vaut très bien, quoi.
Ouais. C'est pas forcément mon type de jeu, donc je vais pas me prendre une boîte comme ça juste pour avoir une boîte.
Non, mais ça coûte moins cher qu'un jeu de figurine, effectivement.
Et puis,
c'est simple en plus, là, parce que moi j'ai joué à des trucs genre Star Wars Mini, là.
Ouais.
C'était pas mal, c'est assez basique dans les principes, mais du coup c'est assez compliqué. T'arrêtes pas de jeter des jets, il faut quand même y a plein de règles de couverture, de machins qui sont un peu compliquées, enfin, qui alourdissent bêtement le jeu, quoi. Ils auraient pu faire des règles plus simples, juste un jeu, enfin, t'es pas obligé de faire un truc, je trouve, compliqué pour faut t'éclater avec des jeux de figurines. C'est pour ça que des jeux comme HeroScape marchent mieux, en fait.
Ouais, puis là, tu as le système d'ordre 1, 2, 3, 4, 5, en fonction des officiers que tu as. Donc, tu les places, tu as même des leurs pour dire, comme ça, tu sais qu'il y a certaines unités qui ne vont pas bouger, qui ne vont pas être activées. Mais tu noues un peu le poisson. C'est vraiment bien foutu. C'est vraiment bien foutu et on se demande pourquoi.
Il a répondu là-dessus. Pourquoi il n'a pas marché.
Donc je vous le conseille. C'est chez Ludic Bazar.
C'est 8 euros.
C'est 8 euros. Donc si vous avez envie de compléter une commande, c'est pas très 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 bien noté, encore que il a 3 étoiles sur TrickTrack. C'est un jeu de Yann et Clem, paru chez Asmodée en 2007. Un jeu d'affrontement dans un background de science-fiction. 2 joueurs exclusivement pour à partir de 10 ans et pour 8 euros chez ludicbazar.com. Voilà, et on vous renvoie au billet du professeur Krilin. Il en a d'autres sous la main, donc dites-lui que vous n'aimez pas son ton un peu trollesque.
Ouais, c'est juste parce qu'il est enfin content de nous avoir rejoint, c'est tout. Ouais. Il a accompli un rêve qu'il avait depuis moins de 2 ans.
Et puis, dites-lui que vous avez aimé sa chronique, que vous en voulez encore, parce que moi j'aime bien l'écouter.
Ah, s'il a d'autres très bons jeux à 8 euros, qu'il n'hésite pas. Hein.
Voilà, et puis avec le Kickstarter, c'est une bonne affaire. Donc voilà.
Et puisqu'on en est sur les jeux de figurines.
Sans figurines.
Ah ouais, les jeux de figurines sans figurines. Je voulais revenir un petit peu sur X-Wing qu'on a déjà décortiqué plus d'une fois, mais on voulait vous reparler parce qu'on a pas mal d'expérience dessus et je pense que ça vous intéressera si vous avez mes jeux. Sinon, passez au chapitre suivant. On voulait parler. On voulait parler des Battle Foam qui sont ces fameuses mousses qu'on met dans les boîtes qui permettent de ranger son matériel. On vous fera un petit article, on a préparé un petit billet pour vous les représenter. Olivier a acheté le gros Battle Foam qui permet de ranger beaucoup, 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 beaucoup de vaisseaux X-Wing.
C'est pas beaucoup, beaucoup.
C'est 8 TIE Fighters.
Le petit Battle Foam, il permet déjà d'en mettre trop par rapport à ce que.
Oui, c'est ça.
À ce que tu as dans la boîte. Ça, c'est une des petites.
C'est pour pousser à la consommation.
Des petites critiques que je fais de ce produit, c'est que, en fait, tu achètes un Battle Foam que tu encastres de façon parfaite dans ta boîte de base. Voilà. Et tu te dis. Eh ben, je vais pouvoir
racheter des X-Wing.
Non, je vais pouvoir mettre tout ce qu'il y a dans ma boîte de base. Alors oui, je mets tout ce qu'il y a dans ma boîte de base, mais je mets aussi 2 fois ma boîte de base plus toutes les extensions.
Oui, de la première série.
Oui.
Donc des TIE Advanced et des Y-Wing en plus. Mais tu peux mettre, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, j'ai pas acheté le gros parce qu'il était pas disponible. J'avais peur, après, je me disais que c'était un peu gros. Et en fait, je me suis rendu compte en recevant le petit que je peux mettre 2 X-Wing l'un sur l'autre.
Oui.
Donc je peux stocker un paquet de X-Wing. Mais le problème, c'est qu'il y a eu la deuxième vague. Alors moi, je n'ai pas acheté, je ne pense pas que j'achèterai le Slave One et le Faucon.
Non, mais quel manque de goût.
C'est ça, on va dire ça comme ça. Je me dis que j'ai déjà plein d'autres vaisseaux et que ça coûte cher les deux autres. Mais j'ai quand même du A-Wing et j'ai des TIE Intercepteurs. Et eux, ils n'ont pas leur emplacement dans cette mousse, mais on arrive quand même à les caser quelque part en fait. Les intercepteurs TIE, tu peux les mettre en place des TIE Fighters ou bien à la place des Y-Wing. Et on peut empiler comme ça plusieurs vaisseaux. Donc en fait, le seul inconvénient, c'est qu'à force, quand on a plein de vaisseaux, on a plein de socles. Et donc dans la boîte de base, dans la mousse, ils ont laissé un petit encart pour mettre le matériel, mais on ne peut pas tout mettre. On peut mettre les cartes, plus toutes les règles, plus.
Mais ça, c'est super bizarre.
C'est parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Ils ont mis surtout pour les figurines. Du coup, il vous faut une boîte à côté. Alors, si vous faites comme beaucoup de joueurs qui achètent qui achètent 2 boîtes de X-Wing pour avoir plus de matériel à moindre coût, dans ces cas-là, c'est pas très gênant parce que vous mettrez dans vos deuxième boîte X-Wing, vous mettrez justement tout le matériel, toutes ces réglettes en plus, quoi.
Oui.
Voilà. Et toi, sinon, vous faites comme Olivier, donc qui achète la grosse mousse.
Oui, alors moi, en fait, j'ai craqué. Et d'abord, j'ai acheté la première série, mais avec un manque, parce qu'il me manque 1 ou 2. Mais bon, j'ai acheté la boîte de base, plus 2 extensions, 2 trucs en plus. Alors c'est très précis, deux trucs en plus.
Le Y-Wing et le
TIE Advanced. Le Y-Wing et le TIE Advanced.
Mais t'as pas repris un X-Wing et un TIE normal pour avoir les cartes en plus?
Non, enfin, non, bah non, je me suis acheté une deuxième. Pardon?
Et ouais, mais dans les boosters, enfin dans les extensions X-Wing ou TIE normal, chasseur TIE normal, t'as des cartes de pilotes que tu n'as nulle part ailleurs. Ils savent te faire craquer.
Ouais.
Non? Ah, dommage.
Non, ça va.
Ah, c'est dommage, je pensais t'avoir là-dessus.
Non. Et le problème, c'est que avec la petite boîte, c'est impossible de mettre le Faucon Millennium et le reste.
Oui.
Tu peux pas mettre le Slave One, tu peux pas mettre le Faucon Millennium. Et alors, tu t'achètes une grosse mousse. Alors, tu regardes et tu t'achètes la grosse mousse. Et puis, tu te dis, OK, je vais acheter la grosse mousse. Déjà, il y a deux étages. Donc, elle fait bien 40 cm sur 30.
Ouais, ça va voir ses dimensions.
Deux
ouais.
étages. Et puis, en fin de compte, tu te dis, oui, mais alors, c'est crétin parce que les deux étages, il faut. Tu vas les mettre quelque part, ça va bouger. Peut-être les mettre dans un.
Dans une autre boîte.
Sur une.
Moi j'avais mesuré dans mes autres boîtes en carte, toutes les boîtes que j'ai, ouais. d'une boîte de jeu, tu vois, que je pourrais recycler, j'en ai aucune en fait qui soit aux bonnes dimensions.
Et ben non, c'est pour ça qu'il faut acheter le pack 216. Et le pack 216 de Battle Foam, c'est un sac dans lequel ça rentre pile poil.
Et ouais.
Et tu sens que t'as de la matière parce qu'il y a une fermeture éclair sous le dessus du sac et tu te dis ça doit s'empiler aussi. Donc ça c'est pour les mecs, c'est pour les Américains.
Ouais, tu empiles les boîtes.
Bref, donc
c'est des Anglais là-bas, je crois, non ?
Ouais, c'est possible. Ouais. Des chips worldwide. Je vous renverrai au billet. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est sur mesure. Enfin, il y a d'emplacement pour tout. Je fais un peu la même critique que toi, c'est que la partie pas avion, la partie vaisseau est peu remplie. C'est-à-dire qu'il y a, tout en double ou en triple, donc ça fait.
C'est un gros mousse, tu peux mettre 8 chasseurs taille, je veux dire, c'est énorme. Quoi.
Mais moi, c'est tout vide, quoi.
Bah oui, forcément.
C'est horrible. C'est horrible. Mais c'est ce qui est le plus cher, quoi. C'est juste. Et par contre, quand tu soulèves, c'est tout rempli.
Ah ouais.
Parce que justement, j'ai pris la deuxième boîte, donc t'as
un paquet
t'as beaucoup de matériel
plus,
et puis t'as toutes les réglettes en. Mais c'est bien. Mmh. C'est bien. Et, bref, c'est juste idéal, sauf que c'est juste hyper cher. Et qu'en fin de compte, ce qui fait mal au cœur, c'est quand tu ouvres ton truc, il n'y a rien dedans. Quoi. La partie vaisseau est toute vide.
Et voilà.
Après, je ne sais pas si ça te fait toi la même chose, mais c'est compliqué d'aller choper les petits vaisseaux.
Oui, et il faut bien passer. Moi, j'ai des doigts fins, donc ça va. Et effectivement, pour aller choper les vaisseaux tout au fond.
Tu veux dire, j'ai des gros bouts.
Non.
Gros doigts
après, sinon, il faut que tu mettes quelque chose dessous pour que le vaisseau, quand tu le poses, il soit déjà plus atteignable.
Ouais. Mais bon, à ce prix-là, tu attendras ce qu'il y ait une petite languette pour pouvoir, comme pour les piles, tu sais.
Ouais, voilà, ça abîme la figurine. Donc, bref. Ces Battle Foam, on les trouve chez Ludic Bazar.
Oui.
On trouve le petit, donc celui qui tient dans la boîte de base, à 13,90€. Et le gros dont vous parle Olivier, on peut le trouver en formule avec les deux Foam à 24,50€. Ou bien, je vois, en fait, on peut aussi prendre juste le Foam où on met les vaisseaux, mais par contre, il n'y aura plus pour mettre le matériel. Et là, ils ne le vendent que 14,50€. Mais il faudra rajouter, bien sûr, là-dessus, sans doute, la petite valisette, le pack 216.
C'est ça.
Qui vaut combien, lui ?
Je dirais une cinquantaine d'euros, je pense.
Alors, autant que ça ?
Ouais.
Ah ouais, quand même. Ça va vite, ces choses-là. Donc voilà, donc sinon, vous prenez, si vous avez deux boîtes de base, vous prenez le petit Battle Foam, et après, quitte à avoir une ou deux figues que vous gardez dans leurs emballages plastiques de départ.
C'est ça.
À vous de voir. Pour finir sur X-Wing, parce que ce qu'on peut reprocher au jeu, quand même, l'air de rien, c'est qu'il n'a pas de plateau. Faire des combats de. Moi j'aime bien faire des combats de Star Wars et tout. Par contre, quand on joue sur une table en bois, niveau décor, niveau immersion, c'est moyen.
Et je te parle pas d'une table en verre, parce que moi chez moi j'ai une table en verre et c'est pas. Là c'est pas. C'est même plus l'immersion. Là.
Donc voilà, ils se battent par-dessus tes pieds. Donc en fait, j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché une solution. Je voulais imprimer sur. Attention, ça fait un mètre. Hein.
Ça fait un mètre ?
Un mètre par un mètre. Donc j'ai cherché une solution imprimée par exemple sur des photos. Des photos, mais je me suis dit, les photos, le problème, c'est qu'après, comment est-ce que je les roule, comment est-ce que, ou alors il faut que je les remette, enfin après, ou alors prendre avec un tissu, mais un tissu, ça a vite fait de plier et de faire tomber les figurines, donc c'était pas la solution. Et j'ai regardé, j'en ai trouvé sur internet des gens qui avaient imprimé ça sur des bâches. Et je me suis dit, mais ouais, c'est l'idée. Donc c'est de la bâche PVC, type, vous avez dans les salons, quand. Sur les stands, des fois derrière, ouais, sorte de bannière, les trucs publicitaires. Donc j'ai fait ça. Alors, il faut faire une grosse bâche, hein, puisque les dimensions de jeu, normalement, c'est 90 cm par 90 cm. Donc, moi, j'ai trouvé un site où on pouvait faire 1 mètre par 1 mètre. Et il faut envoyer les photos en 300 DPI. Donc j'ai cherché des photos de l'espace et des choses comme ça. J'en ai fait deux. J'en ai fait un que j'ai trouvé sur Board Game Geek, je vous mettrai les liens, qui fait en fait la surface de l'étoile noire, qui est vraiment lui en super définition. Et puis j'en ai trouvé un autre avec des étoiles et une nébuleuse. Et ça rend tout de suite beaucoup plus...
C'est immersif.
Beaucoup plus sympa les parties, voilà. J'ai trouvé ça à des prix tout à fait corrects. Alors moi, je l'ai pris sur des bâches pas très épaisses. Par contre, j'ai pris du 340 grammes. Je pense qu'il vaut mieux prendre du 440. C'est un peu plus costaud. Moi, en fait, quand tu les vois là, t'as l'impression que c'est de la toile cirée. Ça pourrait être presque ma nappe, tu vois. Je peux le mettre sur ma table.
Ça tout fait, à fait.
Donc voilà, ça peut être aussi une idée, hein, si tu veux te faire une toile cirée, genre tu manges sur les toiles noires, voilà. Pour faire ta nappe, tu peux faire ça.
Si vous voulez participer à un dîner presque parfait, voilà. Et que vous voulez faire une petite pause X-Wing.
Une pause X-Wing au milieu des assiettes.
Voilà, dîner presque parfait, n'hésitez pas.
C'est ça, je saurais vous renvoyer de chez moi. Du coup, là, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers le site que j'ai fait, moi, sur lequel je suis allé sur easyflyer.fr.
Et c'est combien la bâche?
Moi, ça m'est revenu, tu payes pas les frais de port, ils avaient une promo en marche, je sais pas si elle marche encore. Moi, ça m'est revenu à 34€ les deux bâches, port compris. Mais il n'y a pas vraiment de...
Non, ça va.
Donc c'est correct, tu peux payer par PayPal en plus. Et je crois que donc, je vous mettrai, si je vous mets mon adresse pour le parrainage, je crois que vous gagnez en plus, ça vous fait moins cher. Ça vous fait genre 5€ de moins sur la commande, un truc comme ça. Par contre, moi, comme je dis, moi j'ai fait sur les bâches 340, je conseillerais plutôt les bâches en 440 finalement. Un peu plus costaud, mais pas vraiment plus cher en fait. Hein. Ça doit faire 2-3€ d'écart par bâche. Voilà, vous pouvez faire bien sûr plus que 1 mètre par 1 mètre si vous êtes fou. Vous pouvez faire moins aussi, hein, vous pouvez leur envoyer. Ce qu'il y a, c'est que c'est 1 mètre par 1 mètre minimum. Après, ils vous la redécoupent, hein, si vous envoyez du 80 par 80 ou du 60 par 60. Ça dépend aussi de la taille de vos tables. Hein.
Star Wars X-Wing Miniature Game, c'est un jeu de Jason Little chez Fantasy Flight Games Edge. Sorti en 2012 pour la boîte de base, 2 joueurs exclusivement, enfin, alors, 2 à 4 ou 2 à 6, ouais. Même 2 à plus, à partir de 14 ans, peut-être un petit peu moins.
Oui, moi je joue.
Les règles sont assez simples. À partir de 20 minutes et jusqu'à beaucoup plus. La boîte de base fait 35€, chaque extension coûte 15€. Les grosses extensions X-Wing et Slave One font à peu près 30€. Donc, comptez à peu près votre livret A pour...
Voilà, mais sur ludicbazar.com.
Et sur ludicbazar.com, c'est votre livret A moins 13%.
Oui, parce que vous avez déjà acheté beaucoup de figurines.
Voilà.
Et n'oubliez pas d'ajouter Frontières à la commande.
Et dans la partie écran, on va parler de jeux de société sur iOS. On a de l'Android cette semaine ou...
Non, rien du tout.
Ça fait longtemps qu'on n'a plus de...
Oui, bah parce que voilà. Moi, en fait, sur Android, je continue à jouer à Hiroshima X. En fait, l'autre jour, j'avais un peu de temps. Je me suis sorti ça, j'avais ça sur mon téléphone. Très bien. En fait, c'est très bien, en fait. Il n'y a pas beaucoup de choix. Donc du coup, moi, tu vois, je continue à jouer au même jeu que j'ai acheté déjà et je ne regarde pas comme ça. J'ai moins le temps de profiter de mon jeu. Mais si vous ne l'avez pas encore sur Android, Hiroshima X, allez-y. Hein. C'est parfait. C'est juste un très bon partage.
Ok.
Voilà, donc non, c'est juste sur iPad. Moi, je vais vous parler de jeu iPad. Alors, je vais vous parler notamment, donc, comme je disais avant ça, il n'y a plus grand chose qui sort actuellement. Donc, je me suis rabattu sur d'autres types de jeux. Et notamment, en fait, il y a eu une promo pendant un petit moment. Il y avait Battle of the Bulge, qui est un wargame sur la bataille des Ardennes, qui est à la base un jeu, si je ne me trompe pas, qui est un jeu plateau. Enfin, un wargame carton, etc., qui a été porté sur iPad, qui est quand même vendu à 9,99€. C'est oui. Pas rien. Et il y a eu un moment, il a été bradé entre guillemets à 5,99€, donc je l'ai pris à ce moment-là. Et j'ai joué et c'est très bien. C'est très bien pour plein de raisons. Mais vas-y.
Ouais, Battle of the Bulge, c'est le nom de la bataille des Ardennes.
Oui. Oui, c'est le nom pour les Américains.
Et c'est un wargame de Avalon Hill paru au début des années 90. C'est de ça dont on parle ou alors je me fourvoie et on parle d'autre chose?
Non, ça doit être ça.
D'accord.
Donc oui, c'est un wargame célèbre en fait déjà à Avalon Hill du temps où ils faisaient des vrais wargames quoi, avant qu'ils soient rachetés par Wizards of the Coast et qui voilà. Je dis vague. Le principe donc la bataille des Ardennes, donc c'est un wargame au sens c'est vraiment du wargame, hein, c'est-à-dire il va falloir gérer l'avancée de ces unités. Elles ont bien sûr des capacités de Bon, deux mouvements, c'est assez simple. En fait, c'est un wargame, mais simplifié dans le sens où les unités d'infanterie avancent que d'une case.
Que d'une case ?
Ouais.
Ah, c'est un wargame à la mémoire 44, alors ?
Enfin, c'est une case, oui, c'est des régions, là.
Des provinces ?
Ouais, c'est des provinces. Non, mais ils ont découpé la... Bah, ça se passe au nord des Ardennes, les Ardennes. Donc, plutôt vers la Belgique, un petit peu Charleville-Mézières, etc., pour la France. Bon, je te crée une partie à l'arrache.
Jérémy est en train de lancer une partie. C'est pour ça qu'il est un petit peu moins attentif sur ce qu'il dit.
Voilà, tiens, amuse-toi. Au début, fond briefing. Donc, le principe, donc, les unités ont des capacités de mouvement assez simples. Elles ont des capacités de combat, par contre, un petit peu différentes.
Waouh !
Visuellement, il est très beau, parce qu'Olivier est déjà en est là.
Alors, ouais. Bon, la carte est pas mal. Après, t'as quand même l'effet petit.
C'est ce que je dis, c'est le côté wargame. Ouais, mais ils ont pas mis toutes. En fait, ils ont pas trop mis tout plein de chiffres dans tous les sens, comme on voit trop souvent sur les wargames.
Pas tout plein, non.
Non, tu vois, il n'y en a pas. C'est juste des petits carrés.
Ouais.
Et donc à son tour, donc on va rejouer évidemment la bataille. Normalement, on joue en général les Allemands. Par défaut, ils ont fait deux niveaux dans le jeu, c'est-à-dire une partie découverte. C'est juste la course vers la Meuse, c'est juste les trois premiers jours. Donc les Allemands doivent tenter d'aller jusqu'à la Meuse en trois jours. Au bout de trois jours, on regarde s'ils y sont arrivés ou pas. Et puis sinon, on peut jouer la version complète. Donc c'est là, il y a les 10-12 jours de la bataille complète. Avec, comme dans la vraie histoire, les Allemands qui sont tombés en panne d'essence, etc. Donc, régulièrement, vers des tours, on va avoir des blindés qui ne vont plus avoir, qui pourront pas se déplacer pendant ce tour parce qu'ils n'ont pas d'essence. Et plus on avance, plus il y en aura qui sont en panne. Et quand on joue la bataille complète, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut avoir une victoire franche avec l'axe si on a parvient, je sais plus, un endroit particulier en très rapidement. Mais c'est assez difficile. Et sinon, c'est en fait au début de chaque tour, qui correspond à chaque fois à un jour. En fait, de la bataille, on regarde le score. Si les Allemands ont un score très faible, dans ces cas-là, c'est les Alliés qui gagnent. Et si jamais les Allemands ont un score qui est au-dessus d'un seuil, c'est eux qui gagnent. En fait, on ne calcule que le score des Allemands parce qu'ils marquent des points quand ils occupent des positions stratégiques sur la carte, quand ils font échapper des unités sur les bords nord-ouest de la carte. Mais par contre, ils perdent et quand ils ont détruit des unités des alliés aussi, ils gagnent des points, mais ils perdent aussi des points pour chaque unité qui se fait détruire. Et plus on avance dans le jeu, et bien sûr, plus ça va être dur pour les Allemands parce que les alliés sont partout et beaucoup plus puissants. Et donc, on va essayer de sauver un peu ces unités sur la fin. Voilà, qu'est-ce qui fait que ça marche bien ? Le jeu est expliqué très simplement au départ. Il y a la course vers la Meuse qui permet de se rapidement. En fait, une partie de la course vers la Meuse, c'est quoi ? C'est peut-être 20 minutes. Je n'arrive pas à me rendre compte en fait, parce que c'est captivant comme jeu, du coup on ne fait pas gaffe à l'heure. Mais je pense que c'est un quart d'heure, 20 minutes la partie, ça permet de se familiariser avec le jeu, en sachant qu'on ne va pas gagner du premier coup, à mon avis, de la course vers la Meuse. Et ensuite, on va pouvoir se frotter, comme ça on va pouvoir passer au jeu plus gros. Parce qu'il faut, y a plein de petites subtilités en fait, dans le jeu qu'il faut comprendre au début, qu'on ne voit pas forcément.
Moi je comprends rien. Hein.
Ouais, Olivier, mais bon, tu n'as pas lu le... Il y a un tutoriel. En fait, quand tu commences le jeu, tu peux avoir juste en 4-5 écrans, il t'explique rapidement les concepts du jeu. Ou alors, tu peux avoir un vrai tutoriel qui va t'aider beaucoup plus dans la prise en main. Je conseille de faire le tutoriel.
Oui, moi aussi.
Ouais. C'est en anglais, par contre. Et puis, je vais pas parler du système des combats, parce qu'en fait, les unités, elles ont forcément des facteurs d'attaque, etc. Et c'est résolu, et c'est même un petit peu animé par l'ordinateur, c'est pas mal, et il y a un moyen de voir un petit peu à chaque fois quand on amène une unité pour au combat.
Tes chances de victoire.
Ouais, t'as tes probabilités en fait de voir combien toi tu vas encaisser et combien l'adversaire va encaisser. Il faut savoir qu'il y a bien sûr un bonus en général à la défense quand t'es dans la forêt, quand t'es dans des villes, etc. T'as des bonus par rapport à l'attaquant. Donc de temps en temps, au début, évidemment, forcément, il faut qu'ils avancent, donc ils vont attaquer, et donc tant pis, c'est l'adversaire qui aura les bonus. À la fin, tu vas plutôt toi attendre en fait et profiter des bonus de terrain justement pour. Pour sauver tes unités et éviter de perdre trop de points. Voilà, j'ai parlé du tutoriel, il est en anglais par contre, mais pour moi ça me choque, c'est pas un obstacle en soi. Il y a deux niveaux d'IA aussi, il y a deux types de façons différentes de jouer côté allié, et pareil côté de l'axe, j'ai joué l'axe pour l'instant, donc j'ai pas vu l'autre côté. Une partie complète, ça doit durer peut-être facilement 2 heures. La partie complète de la bataille des Ardennes, et il est possible aussi de jouer en ligne contre un autre adversaire. Au niveau de l'ergonomie, il est juste parfait. Le jeu, pour moi, il a jamais planté. Tout est pensé. Ah oui, quand on déplace des unités, on peut très bien déplacer ces unités pour aller voir leurs chances de combat contre un adversaire, et ensuite on peut faire undo pour annuler son déplacement, ou bien si on est sûr du mouvement, on valide le choix. à chaque fois il faut faire ça, donc ça permet vraiment de on peut quand même aller tester un petit peu à chaque fois, facilement visualiser en fait.
Bah écoute, déjà pendant que tu parles, j'arrive à faire des trucs. Bon, c'est bête de dire ça comme ça, mais
tu cliques sur une unité, il y a des régions qui s'éclairent, donc tu vas dessus.
Ouais, ouais,
tu fais des combats. Mais il faut plusieurs parties pour voir comment l'axe peut aller sur la Meuse en 3 jours en fait.
Ah oui, parce que moi je fais n'importe quoi. J'optimise pas, je tue des
alliés,
Français, ouais, voilà. Des Anglais.
Ouais,
le roast beef.
Voilà.
Pardon, s'il y a des Anglais qui nous écoutent. Non, mais effectivement, après, il y a ce concept-là de conditions de victoire que j'ai pas du tout, mais après, la prise en main et l'interface. L'interface a l'air assez facile à prendre en main. Là, je vois le temps qui défile, donc je pense que je vais me faire avoir, mais c'est bien.
Ouais, le jeu, après, je ne vais pas préciser les tes jeux. En fait, quand on joue un tour, on joue sur une petite tranche de la journée. Mais on sait jamais si notre tour de jeu, en fait, on peut bouger n'importe quelle unité, on active qu'une unité, ensuite ça va être l'adversaire. Et en fait, ça peut prendre entre 15 minutes et 2 heures sur la journée. On sait pas. Je pense que c'est déterminé aléatoirement. J'ai jamais joué à la version à Avalon Hill. Et bien sûr, si les deux joueurs passent, je crois que ça s'arrête. Parce qu'on peut aussi passer. Mais du coup, la journée, elle s'arrête à 18 heures. Donc il faut bien choisir. On pourra pas déplacer, dans une journée, on ne pourra pas déplacer toutes ces unités. Donc il va bien falloir choisir dans quel ordre on les déplace, etc. Non, c'est là-dessus, c'est vraiment très bien fait. Quand on a fini une partie, il y a un mode review, et donc il remontre aussi où est-ce qu'il y a eu les batailles, etc. Et chaque fois qu'on vit une journée, on peut aussi revoir un petit peu l'actualité de cette journée-là, comment ça s'est passé en vrai, ça peut donner des idées, etc. Donc ils n'ont pas fait juste le partage du jeu, ils ont vraiment pensé à tout ce qui va autour. Mmh. C'est pour ça que à chaque fois j'avais vu effectivement les critiques qui étaient élogieuses pour le jeu, que j'ai pas hésité quand il a été bradé, et j'ai pas regretté. Alors bien sûr, hein, c'est un jeu, il faut avoir du temps, hein, parce que à part quand tu fais la course vers la Meuse, mais tu le feras pas souvent, tu le fais au début pour apprendre, après tu passes à la vraie partie. C'est un petit peu plus costaud. Je crois qu'ils travaillent sur une suite après ça ou quelque chose maintenant, le studio, parce qu'évidemment ils ont. Tout le monde les attend pour un nouveau jeu. Je sais pas où ils en sont. Voilà, donc Battle of the Bulge sur iPad, c'est 9,99€, un wargame en anglais que vous pouvez comme jouer à deux, enfin en solo ou bien à deux.
On passe de iPad.
Je crois. Oui, oui, en face à face ou bien à travers le réseau. Que je vous recommande malgré son prix. Si vous aimez un tant soit peu les wargames, vous pouvez y aller. Vous serez pas déçus. Je finis avec une petite note de légèreté.
Oui, moi je suis pris par le. En fait, c'est assez addictif. C'est compliqué au premier abord, et après tu fais un ou deux tours, et je pense que la prise en main est assez.
C'est pour ça que je suis pas capable de donner le temps que dure une partie, parce qu'en fait, une fois que tu as démarré, tu n'arrives pas à l'arrêter. Donc faites pas ça dans le train, parce que vous allez rater votre arrêt.
Tiens, je te rends ton engin. Oui, une note de légèreté.
Une note de légèreté avec Dungeon Plunder.
Alors, t'avais pas l'air très très enthousiaste. Et c'est pour ça que je l'ai pas pris en fait. Je l'ai pas essayé avant en fait.
De quoi ?
Dungeon Plunder.
C'est pas le jeu du siècle. C'est un petit jeu. C'est pas un jeu de société en soi, mais en fait, si vous êtes comme nous.
C'est pas un jeu de société.
Non, c'est pas un jeu de société, mais c'est la génération un petit peu. C'est un graphisme un peu 16 bits. Je dis pas 8 bits parce qu'il faut quand même pas déconner, c'est plutôt du 16 bits ça. Regarde comme c'est beau. C'est en 3D.
Battle of the Bulge, c'était vraiment très très joli.
Ouais, c'était beau.
Non, c'est vrai que c'est joli en fait.
C'est un petit gars, c'est un Canadien qui fait ça. Bon, c'est un jeu, c'est un petit. On va devoir faire avancer un petit héros qui peut être un guerrier, un voleur ou un magicien dans une carte en 3D isométrique. On va le faire déplacer, puis il va faire des combats. Évidemment, il va gagner des niveaux, etc. Alors les combats. Ce qui est intéressant, c'est que les combats, en fait, c'est le jackpot, tu sais. Tu fais tourner la roulette, hop, et puis tu choisis ce que tu gardes ou pas. Il va falloir, par exemple, le découper à la hache. Et donc, après, plus tu en as, là, j'ai par exemple, tu peux, en fait, tu fais tourner une première fois la roulette sur 5 items. Tu peux gagner des boucliers, des haches, des potions, des choses comme ça, de l'argent.
Des haches.
Des cœurs. Des boucliers, c'est de la défense. Bah là, je l'ai battu, je crois, ouais. Et donc, on fait tourner une première fois la roue, on peut garder ce qu'on veut, et ensuite, on fait tourner une autre. Et là, on résout le combat. C'est tout. Et c'est voilà, et donc on résout les combats comme ça, très simplement.
Et pourquoi je peux pas aller sur le coffre là? Moi, je veux aller sur le coffre pour voir
si tu vas pouvoir, mais il doit y avoir quelqu'un qui te gêne, non? Faut peut-être que tu en tues un autre. Non, vas-y, faut que tu voilà. Le déplacement sur la carte du monde est un peu spécial.
Ah, parce que le brigand garde le trésor.
Il faut aller tabasser le brigand. C'est un jeu, puis celle-là. Et tu... Donc évidemment, au début, tu commences dans un petit coin, une région du monde un petit peu, hein, où il y a des monstres faciles à tuer, puis on va petit à petit monter en niveau. On peut aller acheter du matériel dans le... dans les magasins, et il va y avoir des petites missions. On se retrouve un peu vraiment dans les petits jeux d'aventure, on va dire, old school. Mais ce qui fait que le jeu marche, c'est que bah voilà, il y a ce côté très simple, on se déplace rapidement. Les combats, c'est le coup avec la roulette. Un peu une part de hasard, quelques choix rapides à faire. C'est le genre de jeu que je lance quand j'attends 5 minutes pour faire quelque chose, ben hop, c'est le truc que je lance et je fais rapidement, j'avance rapidement. La particularité du jeu quand même, c'est que le bonhomme, il va bien sûr, il va monter en niveau, etc. Mais on peut pas bien, quand il va affronter un adversaire un peu costaud et qu'on va pas avoir trop de chance dans la roulette ou qu'on a mal géré sa roulette, eh bien on va mourir. Et quand on meurt, c'est irrémédiable. Ton petit bonhomme que tu étais tout content d'avoir levelé au fil des minutes, je vous rassure, hein, au bout de quelques minutes, il est vite level 4, mais il va aussi rapidement mourir, et ben, il est mort. Donc tu ne le reprendras pas. Tu vas recommencer l'aventure à zéro, mais tu vas récupérer quand même une partie de ses objets ou de son argent. Tu ne repars pas tout à fait à 0-0, mais...
Et tu recommences, il y a des points de...
Tu recommences, donc du coup, la partie d'après, tu fais un petit peu plus attention à qui tu vas taper, etc. Tu vas un peu mieux leveler ton bonhomme, tu vas un peu mieux gérer les combats.
Il y a des points de sauvegarde ou tu recommences depuis
le
début ?
Non, il n'y a pas de points de sauvegarde. Non, il est mort ton bonhomme, il fallait faire attention. Ça fait bizarre au début. Mais en fait, je pense que c'est fait exprès, c'est pas un jeu où tu prends ton personnage pour très très longtemps. Il faut le gérer, ou il faut faire gaffe, quoi, disons, faire gaffe au combat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le jeu, en fait, depuis que je l'ai pris, il a. Parce que c'est un jeu, il est à 1,89€ sur iPad. En fait, le développeur, il met des mises à jour très régulières, presque une par semaine, avec vraiment beaucoup de choses en plus. Et puis, il a un peu amélioré parce qu'au début, le jeu, il manquait de tutoriel quand même, il n'y a pas beaucoup d'explications, etc. Il a clarifié le jeu, il a mis il y a des petites infobulles, il y a des petites choses qui expliquent un peu mieux comment on a fait les dégâts, comment on a encaissé les dégâts, etc. qui permettent un peu mieux d'avancer le jeu. Puis il a aussi, je crois, il rééquilibre son jeu parce que je pense qu'au début il était un peu costaud, alors il a un peu facilité certains, j'ai vu dans les dernières mises à jour, il a un peu facilité certains combats, etc. ou facilité pour avoir des nouveaux objets.
Mais tu veux dire qu'il faut pas que je te nique ta partie là ?
Non, vas-y, je m'en fiche. Non, parce que celui-là, justement, je crois que c'est un perso à zéro, qui repart à zéro parce qu'il est. J'avais tué mon ancien est mort.
D'accord.
Il y a toujours une déception, hein, quand il meurt d'un coup. Tu vois ses points de vie qui clignotent, un petit personnage, je dis oulala, il va mourir, il faut que je fasse ça. Et puis paf, il meurt.
Je t'ai fait level up et t'es niveau 2 maintenant.
Énorme. Voilà, c'est...
Ça n'a pas grand-chose à voir avec du jeu de société, mais...
Non, mais c'est le côté... les joueurs de jeux de société sont des joueurs qui ont aimé, à mon avis, ce genre un peu de jeu d'aventure, qui en ont forcément fait à un moment ou un autre sur Amiga, PC, ou je ne sais pas quelle autre console de jeu.
C'est très, très abstrait comme baston.
Oui, c'est... Mais moi, c'est...
Parce que donc là, t'as la vie de ton...
La vie de l'adversaire. Voilà. En bas, il y a la nôtre.
Donc on peut berserker. Donc je prends une hache, machin. J'y vais à fond. Je prends des sous. Hein, c'est jamais.
Voilà.
Et je lui fais 6 dommages, d'accord. Et je gagne 4.
Voilà. Il faut savoir qu'en fait, si tu fais 5 haches, tu fais un truc de fou. Tu lui fais beaucoup de dégâts et en plus, tu gagnes de là. C'est expliqué dans l'aide. Ouais, c'est abstrait. C'est-à-dire qu'on n'est pas un combat comme il y a dans les Final Fantasy, etc. où on va gérer le placement de ses bonhommes et tout. Mais on va gérer cette roulette. Mais c'est ce qui fait que le jeu en fait est bien parce que du coup tu lances, puis ça va vite de choisir lesquels tu gardes, lesquels tu relances. Tu fais que ça en fait. Hein. C'est si vous aimez le casino.
Ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Ok. Et ça, c'est 1,89€.
Ah, c'est un style différent. C'était pour contrebalancer Battle of the Bulge.
Ah bah oui. C'est moins joli, mais c'est moins compliqué.
Ah, c'est beaucoup moins compliqué.
Et il va mourir en plus.
Non. Il faut chaque fois on leur donne un petit prénom en plus.
Et tu l'appelais comment ?
Je sais pas. Non, je les ai appelés Bob, JR, vu qu'ils meurent vite. Je leur donne des noms de sitcom. Ou de série.
Ok. Voilà, bah,
j'aurais pu l'appeler Eddard Stark. Ok. Ah, c'est bon, c'est la saison 3 ce soir.
C'est fini les écrans ?
Ouais. Bon. C'est fini de jouer.
Eh ben, je te rends ton iPad et puis voilà. Bah, disons que cette semaine, on a quand même encore une fois, ça fait partie des épisodes que j'aime bien enregistrer parce que on a passé en revue pas mal de bonnes choses. Ascension, Augustus, Kiflow. Ah bah non, on n'a pas parlé encore d'Ascension. Mais non, enfin, tu m'as donné envie de jouer à Keyflower. Je suis content de jouer à Augustus. Frontières, c'était une belle surprise. Grosso modo, ben voilà, c'est j'aime bien faire des
il y a un peu de tout là.
Ça,
voilà. Forbidden Desert.
Il y a pour la famille. Il y a des choses qui sont pas encore sorties comme Forbidden Desert, mais qui sont un peu plus costaud, un peu plus simple avec Augustus. Et puis quand les enfants sont couchés, du Keyflower. Donc c'est bien. C'est bien, bien.
Avec ça, il y a de quoi remplir largement vos journées, soirées, votre vie.
Voilà, donc on vous donne rendez-vous dans une grosse semaine, 10 jours, pour un numéro d'actualité, où on va forcément parler d'Ascension. puisque je vous ai promis pour le numéro 43 un petit comparatif, une présentation d'Ascension dans le détail avec le jeu sur iOS. On pourra vous en parler tous les deux avec Jérémy qui, lui, a la version anglaise. La première édition en français et la deuxième des Héros Immortels. Ça peut être un petit peu plus long. Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, j'adore tes conclusions à rallonge.
Mais non, parce que je suis fatigué, donc je parle moins vite.
Tu sais pas conclure.
Mais non, je suis en train de un petit peu teaser sur ce qu'on aura dans 10 jours. N'oubliez pas, vous pouvez nous mettre un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu-avec-x.fr. Nous avons une page Facebook, vous pouvez venir dire un petit peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas également sur la page, mais c'est mieux sur le site. Vous pouvez nous mettre un commentaire,
Il faut nous mettre des commentaires sur iTunes.
Oui, pour qu'on ait une chance jusqu'au 200. Vous pouvez nous alpaguer sur Twitter. @proxyjeu et puis voilà. Donc on vous dit à dans 15 jours et d'ici là, jouez bien.
Donc le principe de Forbidden Desert, c'est vous êtes des oh là là. Alors ce soir, on boit de la bière un peu forte pour Olivier, c'est de la Faro, c'était pour lui faire plaisir. 4,5.
Oui, alors je raconte 36-15, je raconte ma vie, j'ai acheté des couacs.
Toi, t'es vieille génération, toi, 36-15.
Ah bah oui, bien sûr, je suis né en 95. www.jeracontemavie.com. J'ai acheté des couacs qui sont restés dans mon frigidaire, mon réfrigérateur. Donc voilà.
Bah tu les gardes bien, on les voit la prochaine fois.
Tout à fait.
Mais c'est pas grave, j'en avais déjà bu à midi, c'est très bien comme ça.